Bonjour, bonsoir. Vous écoutez Voix de fait, l'émission du collectif anarchiste La Nuit sur les ondes de CKIA 88.3 à Québec. Alors, je suis Nicolas en compagnie de...
Guillaume.
Et Janie.
Et cette semaine, on va faire un retour sur le 1er mai. Il y a François qui a fait une espèce de vox pop. Tu as interviewé à peu près tous les manifestants et il a pris les meilleurs après pour voir qu'est-ce qu'il en ferait. Alors, plutôt que d'écouter les radios poubelles, il a décidé d'aller voir ce que les gens avaient à dire cette semaine. Donc, un retour sur la manifestation du 1er mai organisée par le REPAC la semaine dernière, vendredi, en fait. Et sinon, on aura aussi un bloc d'actualité libertaire où on va parler de quoi on va parler?
Premièrement, des 1er mai qui a dégénéré en violence en Allemagne et aussi du président du FN qui s'est fait couper le sifflet au Parlement européen.
Ouais, ben, un peu, on peut refaire un retour sur l'éthique encore une fois, là, comme on a parlé la semaine passée, mais tu sais, comme des faits qui font, qui appuient encore une fois ce qu'on a dit la semaine passée.
Alors voilà, nous avons une nouvelle chronique qui n'ose pas dire son nom à voix de fait. Nous allons aussi, on va aussi parler, ben, en fait, c'est le ça va être la minute du patrimoine révolutionnaire cette semaine sur, El pueblo unido ramasuramensido. Puis là, je suis vraiment pas capable de le prononcer comme du monde. Tu sais, le peuple uni, jamais ne sera vaincu.
Moi non plus. Mon accent espagnol est vraiment nul.
Par contre, Farruko, lui, est pas pire là-dedans d'habitude. Ouais. Hey, Farruko, dis-le. Dis-le, Farruko. Explique-nous. Ah, il va avoir de la musique. Parce que Farruko, il parlera pas. Sauf s'il n'est pas invité. Donc, je crois que Guillaume voulait nous faire connaître un artiste de la marge complètement inconnu.
Ben non, mais quand même.
Un libertaire. Oui, oui. Beaucoup aimé à Québec.
En fait, c'est le nouveau CD de Jean Leloup, là. Bon, okay,
j'adore Jean Leloup.
Ouais, mais moi aussi, je l'aime beaucoup. Mais là, c'est ça. Il y a une chanson que je trouvais quand même avec une petite touche politique qui en tout cas, que j'ai bien aimé, vous allez comprendre ce que je veux dire. Mais quand même, ça reste du Jean Leloup.
Ils étaient plus d'un milliard à se partager la caisse de denrées alimentaires. Ils en bouffèrent le bois, puis se grugèrent le foie. Ils étaient bien dégueulasses, des fourrures de hyènes et des dents longues et malsaines. Étaient tout leur apparat, comme ils étaient fiers les rats. Mais en chiant sans arrêt, ils avaient tout empesté, ce n'était pas agréable. Ils se battirent pour le haut, plusieurs têtes furent écrasées dans chacune des ascensions qui pourrirent l'enthousiasme, apparaissent les maladies, les ulcères de la prostate, les cancers de la patate. Car nombreux sont les scélérats et nombreux sont les quotas, beaucoup trop les exploiteurs et les rameneurs en trop. Comme ils sont de gros mangeurs, de la faim ils ont très peur. Ils ont même élu un roi pour le faire fêter de joie. Mais pendant qu'ils se battaient pour aller toujours plus haut, moi qui venais de plus bas, découragé de l'odeur et incapable d'ambition et de mordre un pauvre raton, je tombais en fin de compte dans le fin fond de la caisse. Et c'est là qu'ils m'écrasèrent, et c'est là qu'ils triomphèrent, et qu'ils me complexèrent jusqu'à ce que dans l'atmosphère arrivent les vaisseaux de fer des aliens mangeurs de chair qui jamais ne me touchèrent.
De 300 personnes ont répondu à l'appel de la REPAC le 1er mai dernier pour un carnaval de la crise tout en fête.
On se laissera pas appauvrir, on se laissera pas désunir.
Écoutons Jonathan de l'Association de défense des droits sociaux de la Rive-Sud.
Face à la crise, solidarité avec les personnes âgées. Pendant que les fonds de pension s'évaporent en bourse, le régime de pension du gouvernement maintient les personnes âgées dans la pauvreté. Ces personnes-là doivent se contenter de 14 000 piastres par année, sans pas d'allure. On se laissera pas appauvrir, on se laissera pas désunir.
C'est Marc. Le 1er mai anticapitaliste, moi, ça tombe en plein dans mon...
À vos cœurs?
Oui, tout à fait.
Mais pourquoi?
Ah, ben, c'est parce qu'à cause du système, j'ai toujours été anticapitaliste et je pense que le système dans lequel on vit doit être transformé.
De quelle façon? C'est quoi votre politique?
Ah, ben, moi, ma politique, c'est la prise en charge des citoyens qui prennent leur économie en main, une économie fragmentée, une économie qui est plus proche du monde et qui n'est pas soumise aux dictats des multinationales.
Ça
veut dire fragmenté, ça veut dire l'économie qu'on a dans nos quartiers, dans les... et non pas celle qui est comme à Québec, l'industrie touristique versus l'économie dans les quartiers, l'économie du dépanneur. Le dépanneur est le symbole de la petite économie locale.
Face à la crise, solidarité avec les personnes assistées sociales! En avril, pour la première fois depuis une dizaine d'années, il y a eu une augmentation du nombre de ménages à l'aide sociale en comparaison avec avril de l'année passée. Ça faisait 10 ans que ça n'avait pas augmenté, donc il y a des effets de la crise qui se voient là aussi. La prestation de base pour une personne assistée sociale, je ne sais pas si vous savez c'est combien, c'est 564 $. Ça équivaut à moins de 30% du seuil de faible revenu. C'est odieux! On se laissera pas appauvrir, on se laissera pas désunir!
Parce qu'il y a deux premiers mai, hein. Il y a un premier mai syndical, puis il y a un premier mai syndical qui, lui, veut un capitalisme mou et gentil. Ce à quoi je ne crois pas. Non, je suis pas un expert en économie, là. C'est intuitif un peu mon affaire.
Face à la crise, ça prend des mesures pour redistribuer la richesse, pour améliorer le filet de sécurité sociale, pour les chômeurs chômeuses, pour rendre le régime d'assurance chômage plus accessible, augmenter le nombre de semaines de couverture, puis augmenter le niveau des prestations. Pour garantir aussi à toutes les personnes âgées, tous les retraités, toutes les retraitées, un revenu qui leur permet de sortir de la pauvreté. Puis pour les personnes assistées sociales, tout le monde a le droit à un revenu décent. Faut leur garantir un revenu qui permet de couvrir les besoins essentiels. C'est une question de dignité. Solidarité!
La foule bigarrée s'arrête sur la rue Saint-Vallier, située derrière l'édifice de la fabrique, pour entendre un discours de Mathieu Houle-Courcel.
On est au cœur de ce qui était autrefois le quartier industriel et ouvrier de la ville de Québec. Il y avait ici de nombreuses manufactures, entre autres des manufactures de chaussures, des manufactures de vêtements, et la plus célèbre d'entre elles, c'est sans doute celle de la Dominion Corset dont on voit maintenant, ben, la tour, de l'autre côté, qui a fermé ses portes en 1988. Qu'est-ce qui s'est passé en 1988? Des gens qui étaient nés peut-être cette année-là? Eh bien, c'est l'année où est entré en vigueur, entre autres, l'accord de libre-échange avec les États-Unis, négocié par le gouvernement conservateur de Brian Mulroney avec son grand ami, le sympathique Ronald Reagan. Ils s'étaient rencontrés ici à Québec en 1985 pour mettre au point ce genre d'accords-là multilatéraux qui ont permis à des milliers d'emplois de traverser la frontière, d'aller ailleurs, bref, de répandre à travers le monde l'exploitation salariale, mais toujours dans des conditions de plus en plus précaires. Résultat, ben, les accords de libre-échange ont vraiment sonné le glas de toutes les manufactures dans la région de Québec, à quelques exceptions près. Et des quartiers comme Saint-Roch, il y en a un peu partout à travers la province, où les centres industriels ont été vidés de leur activité économique, et des milliers de personnes se sont retrouvées soit au chômage, soit à l'aide sociale, soit dans des conditions de travail encore plus précaires. Et en même temps que ces usines-là ont fermé, il y a une partie de notre mémoire historique qui est parti avec elle. On se rappellera qu'ici, en 1869, les cordonniers ont fait 9 semaines de grève. Cette grève même qui a été dénoncée par le clergé de la ville de Québec, qui a amené l'armée canadienne à intervenir pour la casser. Et un de ses leaders a été tué par les militaires dans le cadre de ce conflit. La même chose s'est répétée en 1878. Une grève parce que les gens étaient poussés à bout, parce que les gens n'avaient plus rien à manger. Encore une fois, l'armée canadienne est intervenue et a tué l'un des manifestants d'une balle dans la tête. En 1900, 5000 ouvriers et ouvrières ont résisté à un lock-out imposé par les corporations et les grands propriétaires de Québec qui voulaient casser leur organisation syndicale. En 1926 aussi, etc., etc., etc. On oublie souvent cette histoire-là qui est une histoire de résistance dont on doit tous et toutes être fiers et dont on doit se rappeler aujourd'hui dans les luttes qu'on mène maintenant contre les mêmes problèmes. Je m'étais dit tout à l'heure en début de manifestation, il y a beaucoup de monde qui ont perdu leur emploi au cours des derniers mois. En fait, il y a 50 000 jobs qui se sont perdus dans la province de Québec depuis le début de l'année 2009, depuis à peine 3 ou 4 mois. Au Canada, depuis un an, c'est 264 000 jobs qui ont disparu et qui n'ont pas été remplacés. On se dit à Québec, ça va mieux, mais pourtant, une usine vient de fermer ses portes, l'usine Cascade, avec 145 personnes qui ont été mises à pied. Partout dans la région de Québec, il y a aussi des fermetures. À Beaupré, à Donnacona, à Clermont, dans Charlevoix. Oui, la ville de Québec a été jusqu'à présent relativement épargnée. Mais avec les fermetures qui se succèdent partout en Amérique du Nord, avec une économie qui repose de plus en plus sur l'industrie touristique, est-ce que cette même économie dans la région de Québec ira aussi bien l'an prochain? La crise nous pousse à nous poser des questions, à réfléchir sur le sens de l'économie. On veut une économie qui corresponde aux besoins humains, pas aux besoins de profit d'une minorité. Cette économie-là, c'est nous qui la construisons, c'est nous qui y travaillons, c'est à nous de la définir collectivement. Bonne fin de manifestation.
Le 1er mai, pour toi, c'est quoi ça représente?
Le 1er mai, c'est, pour moi, c'est la fête internationale de lutte des travailleurs et des travailleuses. Pour moi, c'est une fête, c'est la fête d'une classe sociale au complet. C'est la fête, dans le fond, des gens qui possèdent finalement que leurs bras, puis leur... Tu sais, dans le fond, qui ont pas... c'est la fête des travailleurs, mais aussi, là, c'est la fête des sans-emploi, la fête des gens... Dans le fond, les gens qui ont de la misère dans la vie, qui en arrachent, je sais pas... Donc, pour moi, c'est une fête de classe.
Pourquoi les prix augmentent autant? Est-ce que ça serait parce qu'on a perdu le contrôle sur l'alimentation, sur ce qu'on mange? Est-ce que ça serait parce que les prix de plusieurs denrées de base sont fixés à la bourse avant de se retrouver dans notre assiette? C'est pour ça, entre autres, qu'il y a eu des émeutes de la faim un peu partout à travers le monde depuis au moins 2 ou 3 ans. Des gens sont morts dans des pays comme Haïti parce qu'ils n'avaient plus rien à manger, pas parce qu'il n'y avait plus rien de disponible. Parce qu'ils n'avaient plus les moyens de se payer une alimentation adéquate pour pouvoir survivre et nourrir leurs enfants.
Alors, dis-moi, Pierre, qu'est-ce que ça symbolise pour toi le 1er mai aujourd'hui?
Bien, la fête des travailleurs et surtout la nécessité, en ces temps de crise, de crise économique, de crise du capitalisme, de crise du néolibéralisme, cette nécessité de descendre dans la rue, de se remettre ensemble, de réorganiser nos capacités de résistance parce qu'elles sont assez mal en point par les temps qui courent.
C'est quoi tu proposes pour justement sortir les gens peut-être de la pauvreté?
Ben, ça prend des mesures, ça prend un filet de sécurité sociale qui permet justement aux gens, c'est ça, d'avoir un revenu décent, leur permet de sortir de la pauvreté. Donc, c'est qu'à la base aussi, tout le monde, qu'importe la raison de leur situation, qui ait un revenu qui permet la couverture des besoins essentiels. Pour moi, c'est comme la base.
Peu importe s'ils travaillent ou non.
Peu importe s'ils travaillent ou non, c'est ça. C'est qu'importe la raison.
Je me fais l'avocat du diable. Le diable étant les radios populaires de Québec, là, les autres, oui. ils vont te dire, les gens qui travaillent pas, c'est des paresseux. Je veux dire, là, tu proposes de les payer, ces gens-là, là. Ben, qu'est-ce qui arrive? Si tout le monde lâche la job, là, qu'est-ce qui va arriver, là? Il y a personne qui va pouvoir payer.
Ouais, mais ça, c'est... Parce qu'actuellement, avec un régime, mettons que si on prend les gens à l'aide sociale, c'est un réseau que je connais un peu plus, avec un revenu de 500$ par mois, les gens se rendent malades, les gens sont en survie. Donc souvent, les gens n'ont pas les moyens d'avoir soit le téléphone ou se payer des billets d'autobus pour faire application sur des jobs. Donc ça crée l'effet que ces gens-là vont réussir à s'en sortir, ils sont en survie.
Mais quand on parle d'augmentation des prix, on ne fait pas uniquement référence au prix de l'essence ou au prix de la nourriture. Dans la région de Québec, on fait aussi référence à l'augmentation du coût des loyers. Depuis l'an 2000, les loyers ont augmenté de 26% à Québec. À cause de quoi? À cause de la toute-puissance du marché privé dans le marché de l'immobilier, de l'habitation. Plus de 90% des logements locatifs à Québec sont détenus par des entreprises privées ou par des particuliers, mais aussi par l'absence de contrôle obligatoire des loyers. Ce qu'on vient revendiquer aujourd'hui, c'est non seulement un meilleur contrôle des prix sur l'alimentation, c'est aussi un vrai contrôle des loyers partout au Québec et la construction de nouveaux logements sociaux.
Ce serait quoi le monde parfait de Jonathan? Un monde parfait, ben moi je pense, je sais pas si ça existe un monde parfait, mais tu sais, un monde au moins où on respecte la dignité de toutes les citoyennes, tous les citoyens. Moi je pense que ce serait déjà une bonne base pour construire de quoi être solide après, où il n'y aurait plus de pauvreté, plus d'exploitation, plus d'oppression. Voilà.
Et qu'est-ce que tu penses de manifestation aujourd'hui organisée par le REPAC?
Ben justement, c'est intéressant parce que il y avait longtemps qu'il n'y avait pas eu une manifestation de ce type-là. Peut-être ce qui est un peu ennuyant, c'est qu'on ne trouve pas les syndicats, qu'on trouve finalement peu de travailleurs, parce que c'est au fond quand on sera capable de se rassembler tous sur une base claire, puis sur une base de résistance aux attaques que l'ensemble de la classe des travailleurs est en train de vivre, qu'on pourra déboucher sur des solutions positives.
Parce que tant et aussi longtemps qu'on va rester prisonnier du marché privé, eh bien, l'augmentation du coût des loyers va continuer, on va continuer à la subir année après année. Ça passe par la socialisation du plus grand nombre de logements à travers le Québec. Contre la vie chère, contre l'augmentation des loyers, solidarité!
Alors cette semaine, c'est la semaine de la dignité des personnes assistées sociales et c'est toujours la première semaine de mai. C'est la 36e semaine de la dignité des personnes assistées sociales cette année. Semaine qui est organisée par le Front commun des personnes assistées sociales, qui est un regroupement de groupes populaires présents dans toutes les régions du Québec et même à Montréal, semble-t-il. Et donc qui organise en fait les luttes. C'est la principale organisation. Il y en a d'autres aussi. Il y a des groupes qui sont pas membres, qui sont un peu partout. Et aujourd'hui, mercredi après-midi à Québec, sur la rue Saint-Amand, les chics locaux du ministère de l'Emploi et de la Solidarité, là où loge Sam Ahmad, le ministre, oui, le sinistre de l'Emploi et de la Solidarité, il y avait en fait des militants et des militantes de Rose du Nord, le regroupement des femmes sans emploi du Nord de Québec, et de l'Association de défense des droits sociaux du Québec métropolitain, la DDSQM, qui était là avec des alliés pour aller porter des étiquettes. Parce que cette semaine, la 36e semaine porte sur dénoncer les préjugés. Et ils disent que le gouvernement ne gêne pas pour mettre des étiquettes sur le dos des personnes assistées sociales. Alors les autres sont allés placarder les fenêtres finalement du bureau avec des étiquettes. Il y avait peut-être un peu plus d'une trentaine de personnes qui participaient à l'activité sont rentrées à l'intérieur de la bâtisse pour se faire sortir par la police finalement, parce qu'il semble-t-il que une délégation rencontre le ministre, mais pas les gens dans le hall, là, vraiment, là. C'était assez comique, d'ailleurs. On nous a dit que c'est un édifice privé. Que donc, comme c'est un édifice privé, le gestionnaire de l'immeuble demandait à ce qu'on sorte les manifestants, et puis les policiers nous ont dit, vous sortez avec nous, on vous sort. Et les gens, ils sont sortis avec eux, puisque, à un moment donné, pas envie nécessairement, juste pour chanter une couple de slogans, de te faire sortir ça à la tête. Mais ce qui a fait dire à plusieurs personnes que les partenariat public-privé ont encore frappé. Le ministère est maintenant dans un édifice. C'est quand même hot, là. T'es dans la capitale nationale, puis le ministère de l'Emploi et de la Solidarité est dans un édifice privé. Fait que bon.
Ce qui est le cas de quand même beaucoup de ministères.
Beaucoup de ministères, mais c'est relativement c'est spécial. Mm-hmm. Et ensuite, c'est ça, il y a eu quand même une tournée de députés. J'ai pas suivi parce que le suivant, c'était Amir Kandir à l'Assemblée nationale et ça se poursuivait avec Agnès Maltais dans Tachereau et tout. Juste souligner avant de quitter que les personnes à cité sociale, en fait, ont. Les groupes de Québec ont repris comme priorité la lutte contre la division, parce qu'actuellement contre les catégories à l'aide sociale, comme on a eu deux personnes de la DDS en entrevue à l'émission il y a quelques semaines, voire quelques mois, quelques semaines, et donc c'est ça, c'est toute la question. On veut réussir à casser la division APTE et INAP, parce que c'est le 20e anniversaire cette année, de la division des personnes à cité sociale entre APTE et INAP, et donc deux chèques, les personnes qui sont aptes au travail et un chèque moins important que les personnes qui sont considérées inaptes au travail. Et puis là, après ça, quant à savoir, la différence de conditions entre les personnes n'est pas toujours évidente. Et donc c'est ça, la lutte des personnes à cité sociale semble se diriger justement là, sur la question des préjugés puis des divisions. Puis ça va être un dossier à suivre, parce que cette année, le gouvernement libéral, vous savez, avait adopté une loi pour éliminer la pauvreté, puis doit adopter périodiquement un plan de lutte à la pauvreté. C'est cette année qu'il doit renouveler le plan de lutte à la pauvreté de l'État québécois. Évidemment, les groupes vont se mobiliser autour de ça. D'ailleurs, à la mi-mai, le collectif pour un Québec sans pauvreté va aller déposer une pétition à l'Assemblée nationale. On entend d'ailleurs des pubs de ça qui tournent sur les ondes de notre station, avec la douce voix de Robin. C'est ça. Puis Rose du Nord et la DDS, c'est les champions de la chanson. Et on va se laisser avec quelques slogans. Revenir tout de suite avec le reste du bloc d'actualité. On fait nos radios canadiens cette semaine. Ouais, c'est justement ça, c'est l'hymne des personnes à cité sociale qui, ma foi, il chante depuis 36 ans, je pense. Il a un petit peu bougé quand même, là. Ça évolue, mais ça reste intéressant. Cette semaine, on parlait, en fait, tout à l'heure, pendant le retour sur le 1er mai, il y avait un bout de discours, là, sur les pertes d'emplois dans la région. On a encore entendu, là, la Stadacona qui va être fermée pendant quelques semaines encore, alors que cette usine-là d'habitude est jamais fermée. Papier White Birch, il coupe jamais la production. Il y a surtout en fait Abitibi Bowaters qui est sous la protection de la loi de Lafayette. Et puis là, la FTQ est bleu marin. En fait, parce que le PDG sortant d'Abitibi-Bowater vient de se faire accorder 25 millions de primes et salaires pour 7 mois et demi de travail. Alors que la compagnie vient de se mettre sous la protection de la loi sur la faillite. Oui, c'est ça. Alors, il y a une prime de départ de 17 millions de dollars et un salaire de 7,7 millions pour seulement 7 mois et demi de travail pour l'ex-président d'Abitibi-Bowater, John Weaver. Et le secrétaire général de la FTQ, qui est le principal syndicat représentant Abitibi-Bowater, bien que à Donnacona, ce soit la CSN. Oui.
Non, mais en fait, tout ce que je voulais dire, c'est que ce gars-là, tout ce qu'il a fait, c'est endetter la compagnie Abitibi Console à l'origine, parce que c'est lui, ouais, qui a fait toutes les fusions, acquisitions. C'est lui qui je me rappelle pas toutes les compagnies qui ont fusionné entre eux autres pour arriver à Abitibi Bowater, mais c'est depuis que lui est là,
c'est sa stratégie.
Pou, on fusionne, on endette la compagnie, on la met dans marde jusqu'à la limite, puis là, ben, ça donne une faillite.
Ouais, il part avec 25 millions. Mais donc, c'est ça, au moment où les travailleurs se battent pour sauver leurs emplois puis leur régime de retraite, l'ancien PDG, donc John Weave, se sauve avec la caisse en laissant une entreprise en état de faillite. Franchement, c'est rire du monde, c'est scandaleux. Ça, c'est le secrétaire général de la FTQ qui... C'est quand même pas... mais d'habitude, il a pas la langue dans sa poche, mais là, il est vraiment pas content, René Roy. La preuve, il reste poli. Et sinon, la centrale syndicale souligne que... En tout cas, il y a de quoi être fâché. Curieusement, on en entend. Les radios populistes ne cassent pas beaucoup de sucre là-dessus. Mais la compagnie a demandé à ce que le gouvernement du Québec verse une garantie de près de 100 millions pour Abitibi-Bowater. Fait que d'un côté, ils demandent, en ce moment, là, ces jours-ci, ils demandent une garantie de près de 100 millions pour venir à bout de leurs échéances rapides à court terme. Puis de l'autre côté, ils garantissent 25 millions à leur ancien PDG. Donc c'est quand même... Et la FTQ de demander à ce que le gouvernement, si jamais il fait ça, qu'il s'assure que l'argent va pas servir à engraisser quelques hauts dirigeants et va effectivement servir à remettre la compagnie sur pied. Parce qu'il faut savoir, c'est pas toujours évident, mais c'est clair, là, t'es précis que Abitibi-Bowater est au Québec à peu près ce que GM est à l'Ontario, là. En termes de job et de réalité économique, là.
Ben, il possède un pourcentage assez énorme de la forêt publique du Québec, là. En frais de droit de coupe, là, c'est au-dessus de 50% de toutes les concessions forestières qui ont été données, dans le fond, à toutes les diverses, justement, compagnies qui ont finalement fusionné pour arriver à cette grosse compagnie-là. Mais comme, c'est incroyable, là. Je veux dire, il demande encore de l'argent en plus de tous ces droits de coupe-là, ces droits de... Dans le fond, d'exploiter la forêt jusqu'à temps que...
Il y a un débarrage aussi, je pense.
Il y a un débarrage, oui, il y en a plusieurs.
Ils font partie avec les alumineries de ceux qui n'ont pas été nationalisés, en fait.
Effectivement.
Donc c'est ça, c'est vraiment quelque chose de gros, ça va être à suivre. Puis c'est sûr que si ça va mal avec le fonds de retraite, ça aura des répercussions évidentes dans toutes les régions du Québec. Puis on peut se demander, en fait, ça va être quand la goutte qui va faire déborder le vase, là, parce que sérieusement, on regarde ça, là, puis je veux dire, il y a d'autres pays où est-ce qu'il y a des gens qui agissent de même, là, ils seraient en train de creuser leur tombe, mais ici, bon, c'est pas tout à fait le cas, mais c'est carrément indécent, et n'en déplaise, là, il y avait Nathalie El Grabli, là, dans le journal Le Québec, là, qui disait que, on est dans une politique de l'envie, il y a une véritable chasse au patron. Ben, ouais, mais peut-être qu'on aurait besoin d'une grande chasse au patron, ça ne ferait pas de tort.
Mais c'est quasiment rendu culturel comme truc. Au Japon, un dirigeant qui floppe sa compagnie, il est expatrié complètement, là, il me semble que c'est le dernier exemple que j'ai en tête. C'est dans les consoles de jeux vidéo, si je me souviens bien, le gars de Nintendo, il a floppé. Il a été shippé en Amérique latine. Là. On veut plus de toi chez
sais
nous.
Pas. C'est vraiment... je sais qu'en France, il y a des images actuellement qui circulent beaucoup. Là. Ben, il y a toute la question des séquestrations de patrons là, qui se fait. Là. Puis c'est en train de prendre de l'ampleur. Mais tu vois, entre autres, il y a un clip qui est vraiment génial sur YouTube. C'est un PDG, le PDG de Continental, qui annonce en fait des grosses fermetures puis des grosses affaires pas d'allure en France. Puis à un moment donné, il commence à se faire pitcher des affaires. Et tout de suite après, l'usine est occupée. Là. C'est assez spécial. T'as enfin une conférence de presse. Là, tu vois les trucs qui commencent à revoler dessus. fait, c'est des employés qui ils comprennent pendant la conférence de presse ce qui est en train de se passer. Donc, ça va être un dossier à suivre et on n'a pas fini d'en parler. Mais bon, c'est ça. Ceci dit, il y a aussi le dossier de l'éthique.
Ouais, ouais, ben, en tout cas, c'est... ça me trouble un peu, là, sérieusement, parce que ces choses.
25 millions.
25 millions, c'est ça.
Je pense que c'est 26 millions, la garantie qu'ils ont besoin pour les retraites. En tout cas, c'est complètement hallucinant.
Puis, en tout cas, faudrait pousser une analyse. En tout cas, je promets rien, mais il faudrait regarder ça avant la fin de notre saison. Là, mais comme le régime forestier au Québec est vraiment horrible. Là, il se compare à peu de choses près là, au régime minier. Là, on entend parler de la mine Cisco là, ces temps-ci, là, qui vont déplacer quasiment toute la ville de Malartic pour aller faire un cratère.
De la ville, ouais.
C'est ça, là, pour aller chercher de l'or qui, dans le fond, il n'y aura aucune redevance pour personne, là, sinon comme une job pour 15 ans à quelques personnes à Malartic. Là, pis, mais... puis beaucoup de profit pour les actionnaires, bien entendu. Mais le régime forestier est basé juste là-dessus, là, sur on pompe les ressources, puis on ne dédommage pas. C'est ça l'affaire, c'est comme, ils sont à peu près pas obligés de replanter, ils sont à peu près pas obligés, ou en tout cas, tu sais, c'est très beaucoup, c'est vraiment subventionné là, à l'os, là, en tout cas. Mais il faudrait regarder ça plus en détail. Fait que, en tout cas, pour l'éthique, ben c'est ça, c'est une nouvelle que j'ai vue. Là, l'éthique qu'on a parlé, bien sûr, c'était à Québec la semaine dernière. Là, mais c'était par rapport, dans le fond...
Tu nous parlais de Paul Crête?
Paul Crête, non.
Paul Crête qui va se taper deux salaires en même temps.
Oui.
Il va avoir la pension, il va avoir la pension du fédéral. Je voyais Ottawa sur ta feuille, il va avoir la pension du fédéral. Puis là, un coup qu'il y a la pension du blanc qui se présente pour le PQ.
Hey, c'est pas pire pour un séparatiste.
C'est lui, Paul Crête, ok, excusez.
C'est pas pire pour un souverainiste.
Oui, effectivement, c'est quand même...
Ceci dit, c'est quand même pas 25 millions non plus. Là. On parle de 100 quelques mille piastres par année.
C'est sûr, mais quand même, là, c'est quelque chose. Mais sinon, non, moi, la nouvelle qui m'a un peu frappé, c'est que c'est une nouvelle dans le devoir que j'ai vu, c'est Ottawa, des députés moins expérimentés, moins instruits, ça c'est le titre, mais moi ce qui est comme, c'est dans le milieu de l'article, là, on voit qu'eux autres ça leur dérange un peu moins, c'est que la plupart des députés, ça fait environ 61% viennent des milieux d'affaires maintenant, tu sais, on pense tout le temps que c'est des avocats en majorité, mais c'est des gens des milieux d'affaires qui sont députés.
Des PDG à la barre.
Des vice-présidents exécutif et machin qui s'en vont faire une petite carrière de député comme ça, on the side. Puis, dans le fond, après ça, on se demande pourquoi c'est les intérêts de cette classe-là qui passent en premier. Tu sais, c'est comme un autre exemple de plus, si on en avait besoin d'autres,
qu'à Ottawa, 61% des députés sont des hommes d'affaires.
Ouais, mais le problème là-dessus, c'est pas forcément... Tu sais, c'est pas que ce soit 61%. Oui, c'est un problème, mais... En même temps, tu peux pas non plus prendre l'option de genre Québec solidaire qui dit on va y aller par les urnes, parce que tu le vois-tu, toi, le prolo, tu penses que tu as une chance contre le bourgeois?
Mais non, effectivement, c'est ça.
Aucune chance.
Tu sais, ça démontre justement comment le système marche à l'argent, est fait pour eux.
Une activité bénéfice, 100 000 piastres. Non, c'est vrai,
il y a des bons amis, tu sais, c'est ça. C'est
un cocktail.
On appelle ça les intérêts de classe.
Oui, c'est clair, là, je veux dire. Puis ces gens-là, justement, se ramassent là parce qu'ils ont les moyens de passer dans les médias, les moyens de se payer des agents de communication, tout le kit. Là,
oui, ça leur appartient.
Ça leur appartient, c'est ça. Ils ont dans leur compagnie à même le en tout cas, le budget et tout. Fait que, bref, non, ça ne fonctionne pas.
Quelque chose qui marche pas. Parlant d'hommes d'affaires qui font de la politique, il y en a un qui ne pourra pas présider une séance d'ouverture.
Non, c'est Jean-Marie Le Pen qui finalement pourra pas présider la prochaine séance inaugurale du Parlement européen, parce qu'il va avoir des élections le 7 juin prochain, puis il va avoir des séances inaugurales après. C'est les changements qui ont été apportés à la dernière minute par les socialistes et, surprise, les conservateurs, qui ont modifié un règlement qui interdira au président du Front national, qui est réélu en juin, de présider la séance inaugurale en honneur criminellement au doyen d'âge, parce qu'ils ont décidé d'échanger ce règlement-là, parce que ça n'a pas de nombreuses reprises, ben, Le Pen, il a quand même vu les chambres à gaz de détails de l'histoire, donc ils ont fait comme, bon, c'est assez, là.
Ah là là.
Ça voudrait dire qu'il présiderait le truc jusqu'à ce que Mons s'en suive.
Non. C'est pas bon pour... C'est pas présider le truc jusqu'à ce que Mons s'en suive.
Mais...
C'est un hommage qu'ils rendent au doyen de la Chambre, puis c'est pas de présider tout le temps, c'est de présider
fois...
une... Une séance.
Ouais, mais à chaque fois, c'est ça, à chaque fois, il présiderait. Là.
À chaque ouverture de session, il présiderait.
Ça entacherait pas mal l'Union européenne.
Ouais, on serait problématique. Faudrait qu'il trouve un vieux coco à présenter quelque part. ou un vieux je ne sais trop, mais. Mais moi, je sais pas, personnellement, l'histoire de cordon sanitaire, là, à un moment donné, là, ou ben non, tu luttes activement contre, ou ben non, je sais pas, là, je trouve qu'il est un peu tard pour faire ça, là, mettons.
Ben, ça a jamais été le temps. Ils ont toujours été trop forts pour que tu fasses ça. Mm.
Donc, t'avais une autre nouvelle, non?
Ouais, ben, en parlant du 1er mai, justement, ben, j'ai trouvé ça en article sur Vice Press qui parlait de heurts qu'il y a eu entre des militants d'extrême gauche, la police, et aussi des militants d'extrême droite en Allemagne. Le 1er mai, il y a eu des manifestations à Dortmund, à Ulm et Mayence, qui a eu des en marge de défilés organisés par les syndicats de manifestations du fascisme destinés à protester contre des rassemblements néo-nazis. Je suis vraiment pas un bon allemand, là. La police a eu le grand mal à contenir une escalade de violence entre un millier de manifestants du parti néo-nazi NPD, plusieurs milliers de corps manifestants qui se sont battus violemment. Il y a aussi à Dortmund qu'il y a environ, il y a à peu près 200 militants néo-nazis qui ont été attaqués, un cortège syndical, puis à peu près 150 personnes qui ont été arrêtées. Puis à Berlin, ben, il y a eu, il qualifie encore les militants d'autonomes d'extrême gauche. Moi, je connais pas c'est quoi. Ce qui est des autonomes, ça, je ne sais même pas, là.
Mais les autonomes, c'est très fort en Allemagne. Ils veulent pas s'identifier comme anarchistes ni comme communistes. Ils se sont créés, genre, le label autonomiste, et puis ils ont beaucoup de squats. Ils repoussent la police vraiment toutes les fois qu'ils essaient de se faire sortir des squats. C'est très fort en Allemagne, les autonomes. Là.
C'est un peu à la base des mouvements des centres sociaux autogérés, je pense aussi.
Ça a rapport avec ça.
Ouais, en fait, c'est une gauche extra-parlementaire, mais tu sais, ça a été aussi à la base de la création du Parti Vert. Ça a été okay. aussi.
Ouais, ben, il y a toujours.
Il y a des ministres actuellement, non plus maintenant parce que c'est un gouvernement conservateur, mais le dernier gouvernement, l'Alliance Rouge-Verte, il y avait des ministres là-dedans qui avaient déjà lancé des cocktails quand ils étaient jeunes.
Okay. Oui, mais c'est quasiment rendu un...
Ça fait 30 ans que ça existe, là, l'autonomie.
Pour les jeunes Allemands qui sont moindrement à gauche, c'est quasiment on dirait quasiment un passage obligé maintenant, autant que quand au cégep, il y a plein de SOSDEM qui vont en PQ ou des affaires de même, là, mais là-bas... On va faire des squats, puis on lance des cocktails quand la police essaie de nous évincer, puis ça fait partie, tu sais, t'en as beaucoup, là. Sauf qu'il y a la critique qui est amenée que, justement, ça fait 30 ans que ça existe, ça amenait à quoi, tu sais. Ouais. Moi, je dis déjà en soi, c'est bon, là. Mais bon.
Ça amène une certaine culture,
enfin. Ouais. Fait qu'il y a eu des violences affrontements toute la journée en Allemagne, parce que ça a été le pays qui connaît sa pire réserve à récession depuis l'après-guerre, puis... Il y a plusieurs centaines de militants des casseurs qui ont arrêté dans tout le pays. Il y a à peu près un demi-million de personnes qui s'étaient rassemblées pour défiler du 1er mai en Allemagne.
Ouais, ben, il faut savoir, juste avant de passer en musique avec l'Allemagne, il y a plusieurs choses qui se passent. Premièrement, le 1er mai, moi je lisais le journal samedi, là, puis il disait radicalisation du 1er mai en Allemagne, une émeute. Il y a des émeutes à chaque année le 1er mai en Allemagne.
Ouais, tu trouves même des best-of sur YouTube.
Non, ça c'est l'affaire qui est claire. Puis l'autre affaire aussi, c'est qu'il y a effectivement une recrudescence de l'autonomie. Et ce qui est particulier avec l'autonomie, que ce soit en Allemagne ou en Italie, là, c'est les deux pays où est-ce que c'est fort. L'Espagne aussi, c'est quand même relativement fort, ouais, les autonomes.
Ben, ça monte.
Non, puis ça fait longtemps que c'est fort en Espagne.
Ouais, mais ça monte.
Mais en ce moment, ça monte justement. Et ce qui est très, très, très particulier de ça, c'est qu'il y a une jonction avec la jeunesse des quartiers populaires. Puis il y a une forme de vandalisme autonome qui marche beaucoup par imitation. Fait que en ce moment, il y a une recrudescence depuis 3 ans d'incendies de voitures de luxe à Berlin. Alors, toutes les fins de semaine, à chaque soir de fin de semaine, à chaque soir de sortie, jeudi, vendredi, samedi, il y a tout le temps entre une demi-douzaine et une trentaine de voitures de luxe qui brûlent à Berlin. Et ouais, ça depuis 3 ans, tu sais.
Ouais, la police essaie de cerner où, tu sais, ils se disent, on va essayer de tendre des pièges. Ils n'y arrivent pas parce que c'est partout.
C'est généralisé. Mais c'est des autonomes, mais c'est aussi des jeunes des écoles secondaires qui font le... Justement, c'est le rite de passage. Fait que c'est comme plein d'éléments de délinquance comme ça. Puis l'émeute traditionnelle, le 1er mai, ben, c'est un peu comme eux, leur émeute du 1er mai, c'est un peu comme ici, il y a quelques années, l'émeute de la Saint-Jean. Ouais. À Saint-Jean-Baptiste, t'allais boire de la bière au centre-ville, puis quand ça pétait, ben tu tirais des bouteilles. T'sais, c'était un rite de passage normal entre l'adolescence puis l'âge adulte. Ben, c'est le même genre de choses. Et actuellement, ben, c'est ça, t'as une couple de pays européens comme ça, là, l'Allemagne, l'Italie, la Grèce, L'Espagne, c'est des endroits mais où la, Grèce, la violence politique fait partie des mœurs. Là. C'est quelque chose qui est là. Puis... Mais là, on voit des affaires revenir. Là. Je ne sais pas si vous avez vu ce 1er mai. Ben, en fait, en Angleterre, ils n'ont pas célébré le 1er mai parce que, bon, eux autres, leur tradition en Irlande puis en Angleterre, c'est la fin de semaine qui suit le 1er mai. Puis là, il y avait un gros forum de marchands d'armes à Camden. Puis il y avait 1500 autonomes et libertaires qui se sont rassemblés là. Et tu vois les photos, les gens sont carrément des casques de construction rouges, tu sais, pour aller affronter la police parce qu'on dit, ben là, ça va faire, on s'est fait avoir au G20, on va pas se faire avoir cette fois-ci. Là, t'as des grosses affaires, tu sais, tu vois, il y a des photos sur Indymedia. Puis là, c'est en Grande-Bretagne, là, c'est pas, tu commences à être loin de l'Allemagne, là. Mm-hmm. Où est-ce que tu vois des autonomes qui sont en train de renverser des bus, puis tu sais, mais ils ont des bus. Pour c'est ça, là, pour faire des barricades. C'est des affaires, la violence politique est en train de... Mm-hmm. À petit niveau, là.
Si on t'avait de sortir le bac en barricade.
Ouais.
Moi, j'ai mis en accréditation, je suis capable de monter ça en 2 secondes.
Sur ce, on avait de la musique, nous, hein?
Ah oui, Kenny Arcana.
Expulser nos centres villes, expropriés de nos droits, colonisation trop subtile pour vraiment le peuple voir. Divisé dans la peur, trop renfermé sur nos mères telles qu'ils s'aiment et dont les fruits nous arrivent en pleine gueule. Ces mêmes bourreaux qui viennent taper sur nos crânes et entre nous, on se déverse tout le poison de nos drames. Ça tord dans la rue, supporte tous les malheurs pendant que des bâtiments sont vides, tant pour prendre de la valeur. Ça expulse des familles, des vieux, des enfants, entre cartes de CRS et caméras de surveillance. Quelques années ont suffi pour aseptiser nos ruelles, apartheid social et culturel. Aujourd'hui, les fachos s'affirment, aiment nous humilier. La ville n'est plus au peuple, mais au marché d'immobilier, fonds spéculatifs, les appétits deviennent tarés. Depuis que la guerre aux pauvres est déclarée, expulsé de nos vies, comme expulsé de nos vies, on ira occuper la rue, comme tous les immeubles vides, on ira affronter la pluie qui sévit et va trop loin, on se laissera pas voler la rue, car la rue nous appartient, ils veulent dessiner l'apartheid, on dessinera le maquis, on ira se réapproprier tout ce qu'ils ont pris pour acquis, sans logis, sans papier, sans rêve et sans droit, solidarité, on est ensemble, c'est le front des sans-voix. Nos quartiers populaires, c'est des bandes qui poussent à la place, nous ghettoïsent, nous font la guerre pour nous envoyer à la casse. Les cow-boys sont armés, prennent goût à ta base, veulent faire déborder le vase pour mieux nous voir boire la tasse. C'est le nouvel ordre qui tape jusqu'à nos quartiers, police featuring Air France, si jamais t'as pas de papier. Babylone cause de son empire sur nos misères, depuis que les droits de l'homme sont morts lors d'une bavure policière. Génération bouc émissaire, mégots de jeunes sous le préau écrasé, mais qui n'a pas dit son dernier mot. 2008, injustice, y'a que des murs et des tensions, des familles, même des enfants enfermés en rétention. Survivre dans ce merdier est devenu un mode de vie, des SDF qui crèvent dans le froid devant des immeubles vides.
Just too bad pour Kenny. Vous êtes toujours sur les ondes de CKIA 88.3 à Québec pour Voix de Fille. Si on veut avoir le temps de faire la minute du patrimoine révolutionnaire de cette semaine, ben, il fallait faire des Kenny Arcana. Désolé. Ben, l'idée de cette chronique-là, c'est, ben, un, c'est une chronique musicale et l'idée, c'est de faire connaître l'histoire et les dessous de certaines chansons révolutionnaires. Et cette semaine, on va reprendre El Pueblo Unido. Ah, ouais, c'est ça. El Pueblo Unido, Ramasera Vencido. Probablement que je le prononce tout croche. Le peuple uni, jamais ne sera vaincu. Mais bon, c'est ça. C'est la vie. Mais avant d'embarquer là-dedans, dans l'espagnol, on va d'abord écouter un peu de Folie Berrurière. Se rappeler des bons souvenirs. Alors, je sais pas pour vous, mais moi, j'ai découvert cette chanson-là lors de ma première écoute de Viva Bertaga en 1990. Non, la tournée est en 89. Le disque est sorti en 90. C'est l'album live, en fait, de la tournée d'adieu des Berruriers Noirs. Et contrairement à certains camarades Reds, j'avais pas une très grande culture oi à l'époque, puis je pouvais pas savoir que c'était une reprise de Sham 69, puis que Sham 69, c'était bien meilleur. Moi, je trouvais juste ça bizarre que les Berru chantent une chanson en anglais. Pourquoi je vous parle de ça? Parce qu'en faisant des recherches sur Wikipédia, pour parler d'une autre chanson, El Pueblo Unido, blabla, j'ai appris que Sham 69 s'était en fait inspiré de ça pour faire If the Kids Are United. Donc, de Berruriers Noirs à la gauche latino-américaine, il y a un méchant voyage. Et je... juste quand même, on va le mettre un peu, Sham 69, là. C'est un groupe mythique et c'est un M-Punk qui a été mais vraiment très important en Angleterre à l'époque, même jusqu'en France. 79 donc. Alors, dites-vous bien que là, ça, le refrain s'inspirait de El Pueblo Unido. En tout cas, hein? Quand même, c'est relativement spécial. C'est une chanson, en fait, qu'on pouvait entendre à Santiago de Chile en 1973. Ça a été écrit par le compositeur chilien Sergio Ortega en juin 73, et ça a été enregistré pour la première fois par le groupe chilien. Ben là, mon espagnol est probablement aussi bon que l'allemand de Jenny, qui l'a payune. Aide-moi, Faruco.
Je sais pas le nom, c'est toi qui as le papier.
Qui l'a payé, en tout cas, peu importe. Et c'est seulement après le coup d'État du 11 septembre 73 que le groupe Inti Illimani a rendu la chanson célèbre un peu partout dans le monde. Au fil du temps, la chanson a été utilisée par des militants de mais vraiment toutes les causes. Et puis elle a fini par se déconnecter du Chili. Pendant un bout, ça a été une chanson latino-américaine. Mais elle a été traduite en plusieurs langues. En Iran, ça a été repris par les militants de la révolution islamique dans un chant nommé Barkha. Il y a justement le groupe punk Sham 69 qui a composé une chanson qui s'en inspire et qui reprend le même air, mais qui est intitulée The Kids Are United, ce qu'on a entendu tantôt. Il y a aussi le groupe ska punk Les Betteraves, dont la chanson Viva Zapata, et le groupe Mano Negra, qui l'a repris directement tel quel sur un de ses albums, en la remettant simplement au goût du jour. Et il y a eu des grands combats dans l'extrême gauche pour la fin de la chanson. Ce qu'on allait dire, El Pueblo Unido Ramasera Vencido, ou ben non, El Pueblo Armado aplastado. Le peuple armé ne sera jamais écrasé. Le peuple armé ne sera jamais vaincu. Ou le peuple uni ne sera jamais divisé. On ne savait pas trop. Puis surtout que le coup d'État chilien, ça a été vraiment un catalyseur de beaucoup, beaucoup, beaucoup de débats dans l'extrême gauche entre la voie réformiste possible et finalement impossible et la voie révolutionnaire. Et effectivement, le coup d'État chilien a poussé plein de gens dans les bras de la révolution parce qu'ils se sont rendus compte que finalement, peut-être que changer le système de l'intérieur, c'était pas possible. Il faut savoir que les deux groupes qui ont fait connaître la chanson étaient loin d'être des nobodies. En fait, c'est des groupes à l'avant-garde de la renaissance de la chanson chilienne. Ils mixaient du traditionnel avec du nouveau. Et d'ailleurs, on avait un des deux qui avait été nommé ambassadeur culturel du Chili par Allende. Le groupe qu'on va entendre, d'ailleurs, c'est ça. Et les deux groupes ont pu échapper à la dictature parce qu'au moment du coup d'État, ils étaient en tournée à l'étranger. Alors, mais malheureusement, bon, l'exil a eu raison de l'esprit collectif. Là, c'est des gros collectifs, ces groupes-là, là, un peu comme, je sais pas, moi, imaginer la bottine souriante avec une coupe de... de musiciens de plus, donc c'est le genre de truc. C'était des gros collectifs, mais l'exil a usé les groupes et ils se sont finalement disloqués, ont été entraînés dans des querelles juridiques pour savoir qui aurait le droit d'utiliser le nom, qui aurait les droits d'auteur, ce genre de trucs-là. Bref, c'était des vrais gauchistes. Et ils se sont divisés entre eux. Et c'est ça, voilà. Sur notre site, vous allez trouver une traduction des paroles. Je vais vous en faire grâce quand même. Mais c'est une chanson, bref, c'est une chanson très... très optimiste sur la victoire du Front de Gauche. Effectivement, c'était quand même 2 ou 3 ans qu'il était élu à l'IND et puis qu'il y avait des transformations sociales importantes et on pensait que ça allait continuer. Alors, si vous allez sur Voix de fait, notre blog, vous allez trouver en fait des vidéos, justement la première fois où cette chanson-là a été chantée en public à Santiago de Chile en 73, quelques semaines avant le coup d'État. C'est quand même assez spécial comme ambiance. La même chose chantée au retour de la démocratie, un très grand festival culturel en hommage à Allende et tout et tout. Alors voilà, on va l'entendre et c'est là-dessus, c'est Ouais, c'est pas mal là-dessus qu'on va se quitter, j'imagine. Donc voilà, le peuple uni jamais ne sera vaincu. Sur les ondes de Voix de Fait à CKIA 88.3, passez une agréable semaine en compagnie de votre radio communautaire. C'était Nicolas avec
Guillaume,
Jenny
et Farouco.
Se alzarán, dirán, canción de libertad, con decisión la patria vencerá. Y ahora el pueblo que se alza en la lucha, con voz de gigante gritando adelante. El pueblo unido jamás será vencido, el pueblo unido jamás será vencido, la patria está sur se movilizará desde el salar ardiente y mineral al bosque austral, unidos en la lucha y el trabajo irán, la patria cubrirán su paso ya, anuncia el porvenir, de pie cantar, el pueblo va a triunfar, millones ya imponen la verdad de hacer. Llevando la justicia y la razón, mujer, con fuego y con valor, ya estás aquí junto al trabajador. Y ahora el pueblo que se alza en la lucha con voz de gigante gritando adelante. El pueblo unido jamás será vencido, el pueblo unido jamás será vencido.
So let's all grab and let's all enjoy. Like you and me, understand him, he'll understand you, for you are him, and he is you.